Alors soyez les bienvenus pour cette table ronde, conférence, café littéraire, je ne sais plus jamais comment les appeler. L'idée, c'est de savoir si vous, les écrivains, vous êtes des magiciens. Bon, alors c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire tout de suite oui, il va falloir nous convaincre. Et pour ça, nous avons quatre invités. Patrick Maxper, qui est donc là avec son dernier livre, Aelphic, que vous pouvez retrouver dans la bulle du livre et qui pourra vous signer dès la fin de la conférence. Un ancien livre, un livre un peu plus ancien, Victor London, et on va parler de tous ces livres en général. Moi, j'essaie de ne pas me contourner à un seul livre, sauf si j'ai que des auteurs débutants, mais là, ce n'est pas le cas. Anselme Moschkorn, qui est le vainqueur du prix Imaginal de cette année, donc tonnerre d'applaudissements. Avec le journal d'un marchand de rêve, Victor Dixen, que nous connaissons bien, qui est aussi avec des vainqueurs à d'autres occasions, et qui est là pour Phobos 3e, c'est ça, hein, et Daniel Martin-Gol, qui est là à la fois pour Les Ombres d'Outre-mer, qui sont un livre un peu plus ancien, mais surtout pour les aventures les aventures de Guédelon, qui sont des romans jeunesse, qui parle d'un univers presque réaliste, on peut dire ça comme ça. Alors commençons comme ça. Est-ce que l'écrivain, dans sa définition, est-ce que être écrivain, c'est effectivement avoir en soi un peu de magie?
J'avoue franchement que la magie, c'est pas trop ma tasse de thé, moi, personnellement.
Dans les livres, en tant qu'auteur, est-ce que...
En tant qu'auteur, oui, parce que c'est quelque chose qui... Il y a une alchimie, on mélange des personnages, des décors, des intrigues, de tout ça, il ressort un livre, une histoire, et même nous, quelque part, on est un petit peu surpris par où nous emmène notre histoire. On a des fois des explosions un petit peu magiques, quand on a un personnage qui nous échappe et que d'un seul coup, tiens, celui-là, c'était pas prévu, il s'impose, ou alors ce décor qu'on envisageait comme étant très important, essentiel à l'histoire, tout coup, il se gomme un peu, il disparaît plus ou moins dans l'invisible au profit d'autre chose. Donc oui, il y a de la magie, ça c'est sûr et certain, et c'est ce qui est fascinant et c'est ce qui est addictif, si j'ose dire, hein. C'est ce qui nous donne envie d'y retourner, et puis un livre terminé, de se dire, eh ben, tiens, je vais en attaquer un autre, hein, tout comme fait, c'est un grand plaisir, et voilà, on reste dedans.
Victor, est-ce que toi...
Je rejoins complètement ce qu'a dit Daniel, hein, mon expérience d'écriture. J'ai tendance à beaucoup planifier avant de me mettre à écrire, à faire mon intrigue, des recherches documentaires, des fiches de personnages, et ainsi de suite. Néanmoins, c'est lors de la rédaction, lorsque les personnages commencent réellement à exister, à dialoguer, à prendre leurs propres décisions et donc à m'échapper, qu'il y a une magie qui intervient, quelque chose, une espèce de risque aussi. J'ai l'impression de dévier de la direction que j'avais choisie, donc ça me met un peu mal à l'aise, mais en même temps, c'est ce qui me donne envie de continuer d'explorer l'histoire avec mes personnages et de les découvrir. S'il y a quelque chose de magique dans l'écriture, je pense que c'est ça. Et on est quelque part, nous auteurs, je pense, les premiers lecteurs de notre livre en train de naître. Et c'est ce qui donne envie de continuer d'écrire comme le lecteur. On continue de tourner les pages, la magie, à mon sens, elle réside là.
Patrick ? Moi, je suis un magicien, effectivement. Abracadabra, vous viendrez acheter mes livres. Non, n'arrivez pas, c'est vrai, vous allez voir.
Au-delà de ce moment dont on verra les effets un peu plus tard,
j'espère que ça va marcher, parce que sinon je suis passé pour un magicien de basse extraction. Hein, quand même. Mais non, plus sérieusement, quitte à paraître un petit peu immodeste, moi je pense que là, tous les deux vous parliez de magie, mais qui nous échappe un petit peu, c'est vrai que. Je crois qu'on est tous un peu pareil, les auteurs. À un moment, on avait établi notre conducteur, on pensait savoir où on irait, puis finalement, ça part un petit peu entre sens. On dirait que les personnages finissent par acquérir effectivement une vie autonome. C'est assez fascinant. Ça, c'est un peu un petit peu de la magie qui nous échappe, mais je crois que les écrivains et plus généralement tous les artistes, effectivement, sont quand même quelque part un peu des magiciens, puisqu'ils réussissent à extirper une espèce de matière indéfinissable du néant, à lui donner forme et vie pour aboutir à une création. Alors, alors ça, ça fait pas très beau gosse. Je m'en excuse. Je m'en excuse très bas, mais voilà.
Anselme, est-ce que vous aussi vous créez de façon magique?
Alors, que dire quand tout a déjà été dit, ou presque, pas tout, j'espère. Je m'étais beaucoup documenté pour un ouvrage, par exemple, sur les entresorts, les forains, cette magie en fait, faite de briques et de brocs, de petits bouts de ficelle. Je trouve ça un petit peu ça l'écriture. C'est aussi en fait avec quelques mots, avec des procédés extrêmement simples. Cherche à ressusciter un peu cette magie en vous, à la teaser avec quelques mots, mais n'oublions jamais qu'une grande partie du travail d'imagination est aussi fournie par le lecteur.
Alors, justement, est-ce que cette magie dont vous venez de parler tous les quatre, est-ce que cette magie de l'écrivain, est-ce que c'est une magie de l'écriture très structurée? Est-ce que c'est quelque chose qui a des. Qui est forcément lié à des codes, lié à un processus de travail, lié à quelque chose qu'on répète et qu'on travaille profondément et sur lequel on remet l'ouvrage un petit peu comme un magicien de spectacle répète ses tours. Ou est-ce que c'est quelque chose qui est réellement du domaine de l'indicible et que soit, j'ai presque envie de dire, on a ou on n'a pas? Je vous poserai d'autres questions après sur est-ce que vous êtes né avec ou pas. Est-ce que vous, vous êtes des écrivains, des magiciens, et est-ce que nous, on est des moldus, et qu'on n'a pas une once de magie, et qu'on doit faire sans? Voilà. Est-ce que vous avez un truc en plus, ou est-ce que vous travaillez beaucoup? Ils n'ont pas l'intention de vous révéler leurs secrets, hein, j'ai un peu l'impression.
Si on répond qu'on a un truc en plus, on va encore passer. Tout le monde va croire qu'on est bouffi d'orgueil, donc on ne peut pas attendre ça,
justement. Moi, j'ai un truc en plus, tu vois, par exemple, je suis noire, tu es blanc, il y a des choses différentes. On a tous des petits, il y a des gens qui ont des lunettes tout petits, d'autres pas. Est-ce que vous avez un petit bon, comme les gens savent tourner leur langue, c'est presque c'est génétique, toucher leur nez, tout ça. Est-ce que vous avez un truc Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que vous pensez que c'est avec le travail, peut-être un bon lecteur pourrait devenir un bon auteur un petit magicien?
Alors, je vais vendre un peu les secrets de cuisine. Je pense qu'en fait, le travail fait beaucoup. Je suis ravi que tu poses la question alors que je suis en pleine phase de finition de roman. On jette beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, chacun a sa façon d'écrire. En tout cas, jette beaucoup. Stephen King disait par exemple assassiner vos chéris en disant que quand vous créez un ouvrage, c'est un peu votre bébé. Mais parfois, il faut aussi l'éduquer un peu à la dure et ne pas hésiter à jeter une quantité phénoménale de passages, de chapitres. Pour vraiment ne garder que le meilleur. Parce qu'en fait, la magie, ce qu'on évoquait depuis le départ, durant l'intervention, ben, ça tient à peu de choses. On la crée avec peu de choses, mais aussi avec tout le temps sur le fil du rasoir. Et il suffit qu'un passage soit un peu moins réussi pour que tout s'effondre. Je vois complètement ce que disait Victor également par rapport à la construction d'une histoire. L'histoire, en fait, personnellement, je la monte du début vers la fin, puis après, je la démonte de la fin vers le début, et constamment, je pose la question, est-ce que j'emporte à chaque instant mon lecteur avec moi?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Déjà, ce que disait Anselme sur la partie réécriture, l'écriture c'est un artisanat, donc c'est des petits trucs, c'est de la finition, et écrire pour moi, c'est pour tous, je pense, c'est d'abord réécrire. C'est se relire, c'est couper, c'est refaire, reformuler, déplacer. Il y a ce côté artisanal, à mon avis, qui est très lié au travail du romancier. Et pour répondre à l'analogie que tu faisais avec la magie, est-ce que c'est une magie comme ça qui nous emporte ou est-ce que c'est quelque chose de très construit comme un prestidigitateur? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs phases, il y a aussi sans doute plusieurs manières d'écrire en fonction des personnalités. Si on file la métaphore, il y a peut-être une magie chamanique parfois, on se sent porté par la seconde. Il n'y a pas d'autre mot pour le désigner que l'inspiration, où ça coule comme ça, on est transcendé. Et puis il y a d'autres moments où ça va être plus le magicien qui planche sur ses vieux grimoires, qui va rentrer dans les détails, et qui va être quelque chose de très cérébral. Je pense qu'il y a ces différentes phases qui se combinent dans l'écriture et qui aboutissent au roman au final. Après, quant à savoir, je pense qu'on a tous en nous ces capacités de raconter des histoires. Je pense qu'on est fait d'histoires en tant qu'être humain, on est constitué par des histoires, les histoires qu'on nous raconte quand on est tout petit, les contes. Et ensuite ça qui nous accompagne toute notre vie. On est consommateurs d'histoire et je pense qu'on a tous la capacité d'en produire et d'en raconter aussi. Après, c'est le travail, effectivement, qui paye, c'est l'ouvrage, le côté artisanal.
Magicienne ou artisane?
Alors, moi, je suis ce qu'on appelle un auteur structurant, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir où je vais, quelle est ma cible, je vise quelque chose. Bon, la flèche, après, elle va faire peut-être pas mal de virages, mais je vise quelque chose. La première fois que j'ai posé à un écrivain la question « Comment fait-on pour écrire un roman ?», cet auteur m'a répondu « On commence par jeter les 50 premières pages à la poubelle ». Et alors, ça m'a énormément interpellée parce que je me suis dit « Oh là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire qu'effectivement, nous sommes des êtres qui doutons. Je pense qu'on ne peut pas être sûr de nous. Et du premier coup, ou alors de toute façon, ce serait vraiment très prétentieux ou très prudent, etc., de penser ça. Et nous avons besoin, quelque part, au début d'un livre, de nous rassurer. Et c'est vrai que très souvent, quand on débute, on est tenté de construire le décor, de construire le personnage, de mettre plein de petites choses qui nous semblent importantes, des dates, des lieux, etc. Et finalement, quand on réfléchit bien à le lecteur, tout ça, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, pour le lecteur à jeunesse, le lecteur, il n'en a pas grand-chose à faire de tout ça. Hein. Ce qu'il veut, ce n'est pas les ingrédients de la tambouille, si j'ose dire, c'est plonger directement dans la tambouille. Et c'est l'action qui doit primer. Alors, ne sachant pas comment commencer mon premier roman, je me suis dit, tiens, je vais commencer par une phrase de dialogue, quelque chose qui est prononcé par un personnage. Et ça m'a servi parce qu'automatiquement, à partir du moment où vous avez mis les paroles de quelqu'un, après, tout doit découler de cette première réplique. Et je pense que si magie il y a, c'est pas l'arrière-cuisine que nous devons montrer. C'est directement le résultat, mais pour entraîner le lecteur vers quelque chose.
D'accord, alors, parlons d'un résultat qui est l'un des tiens. Qu'est-ce qui se passe dans ces aventures à Guédelon?
Alors, les aventures à Guédelon, ça part de quelque chose de particulièrement réel, puisque le chantier médiéval de Guédelon au nord de la Bourgogne fête ses 20 ans cette année.
Emmenez-y vos enfants, allez-y vous-même, c'est un très bel endroit.
Bon, je pense que ça commence à être bien connu maintenant, mais c'est vrai que ça vaut le coup d'y retourner si on y est allé il y a longtemps, parce que ça monte assez vite. Et ce chantier médiéval, là, il y a eu quelque chose de magique pour moi. La première fois que j'y suis allé en 2004, il y avait la base simplement des tours, des courtines, enfin, il n'y avait pas grand-chose qui était sorti de terre. Et puis de voir ces ouvriers en train de travailler dans des tenues du Moyen-Âge, avec des outils du Moyen-Âge, enfin, exactement dans les mêmes conditions qu'au XIIIe siècle, ça m'a fasciné. J'ai eu réellement la sensation, pour la première fois, de faire un voyage dans le temps. Donc l'auteur de science-fiction que je suis avait lu pas mal de choses qui étaient des scènes qui se passaient dans le passé ou dans le futur, etc. Mais quand vous êtes confronté à la réalité d'un lieu qui est en lui-même un voyage dans le temps, ça m'a fasciné. J'ai tout de suite eu envie de mettre des personnages au milieu de cet embryon de décor, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque. Mais bon, je n'ai rien dit à personne, parce que ça nous arrive aussi d'avoir des idées et de nous juger nous-mêmes un peu farfelus en disant c'est pas possible, ça marchera jamais je pourrai écrire un roman qui se déroule ici. Et j'ai attendu assez longtemps avant d'en parler un jour à ma petite belle-sœur qui habite dans cette région-là. C'est d'ailleurs grâce à elle et à mon frère que j'avais découvert les lieux et qui m'a dit, mais c'est une super idée, il faut en parler à l'équipe dirigeante du Guédelon. Et là, je me suis sentie un petit peu mise au pied du mur, donc j'ai effectivement rencontré Marie-Lyne Martin, la directrice du site, qui, me voyant arriver avec mon étiquette d'écrivain de science-fiction, m'a dit « pas de fantastique ».
Alors, ça commençait mal.
J'ai tout de suite compris qu'elle ne voulait pas quelque chose dans le genre du film « Visiteur » ou etc.
Vous pouvez la comprendre.
Donc, j'ai dit « oui, non, mais moi, vous savez, j'ai juste envie d'imaginer des jeunes de notre époque en train de vivre une aventure au milieu de votre château, de votre chantier médiéval. » Alors, on s'est très très vite, très bien entendu, on était sur la même longueur d'onde, beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, elle me dit, ce qui serait bien, c'est que les gamins du 21e siècle, ils aient contact avec ceux du 13e. Bien. Quelqu'un qui ne voulait pas être fantastique. Alors, je dis tu vois ça comment, Marilyn? Alors elle me dit, oh, je sais pas, une porte temporelle. Alors là, j'ai dit, ça va, je peux y aller. On n'a pas tout à fait la même notion, finalement, des littératures de l'imaginaire, voilà. Et je lui dis, bon, je vais peut-être pas mettre une porte temporelle, Jean Stargate, au milieu de la cour de Guédelon. Et donc, on a choisi ensemble l'escalier de la poterne à l'arrière du château. Et là, il y a une toute petite anecdote qui est très mignonne aussi. Je lui dis, bon, alors, si les gamins montent dans l'escalier de la poterne, ou plutôt descendre dans l'escalier de la poterne, et en bas, ils se retrouvent dans la forêt de Guédelon au Moyen-Âge. Elle me dit, ah mais non, pas descendre, c'est pas possible. Alors je dis, ah oh, j'ai dit une bêtise. Mais non, c'est pas le sens de la visite. On interdit aux visiteurs de descendre dans l'escalier de la poterne parce qu'il est humide, c'est un château fort quand même, ouvert à tout vent, un chantier en plus. Elle me dit, donc les visiteurs n'ont qu'une chose, n'ont qu'une autorisation, c'est de monter dans l'escalier de la poterne. Ah, je dis, bon, alors, donc, s'ils montent dans l'escalier de la poterne, mais au lieu d'arriver dans la cour du château, ils se retrouvent dans la forêt, ah, ben, il me dit ça, c'est super.
Ça tient un peu de choses.
Ça tient un peu de choses, la magie, finalement. Le sens de visite.
Victor, est-ce que Phobos, ça naît d'une chose particulièrement magique pour vous, ou c'est un processus créatif, une idée que vous avez portée en vous depuis longtemps?
Non, il y a plusieurs sources d'inspiration à Phobos. L'une d'entre elles, c'est la fascination que je nourris depuis tout petit pour l'espace, la conquête spatiale, ces autres mondes qui nous tendent la main. Et cette fascination, il y a quelque chose de magique dans le fait d'imaginer ces ailleurs, cette échelle de dimension qui est celle de l'espace qui nous dépasse et qui nous écrase complètement. C'est assez fascinant. Et ça, j'ai voulu le mettre au cœur de ce roman.
Parce que pour vous, c'est assez magique. On peut le voir d'une façon très scientifique, un peu à la Alexandre Astier qui démystifie complètement le voyage dans l'espace, la rencontre avec l'autre, les étoiles. Enfin, lui, il est assez dans le réel. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de magique rien qu'à lever les yeux vers les étoiles?
Je pense, oui, certes, on peut essayer de ensuite le rationaliser, le mettre en équation, mais néanmoins, l'imagination et le fait de penser l'infini, parce que quand on parle de l'espace, on parle de l'infini, c'est quelque chose, pour moi, qui est au-dessus de l'existence humaine, dans son caractère limité. Donc, forcément, ça y a une part de magie. Hein. Moi, je ne peux pas l'expliquer autrement que comme ça. Et mes personnages dans Phobos, qui sont 12 jeunes gens sur Terre qui ont été sélectionnés pour partir en aller simple vers un nouveau monde, la planète Mars, en l'occurrence, pour la coloniser, y créer des familles, ils sont animés par cette envie d'ailleurs, d'absolu, cette envie de magie peut-être quelque part qu'ils ne trouvent plus sur Terre. Et l'autre partie, l'autre inspiration que j'ai mise dans Phobos, elle pour le coup n'a rien de magique ou alors de manière différente. C'est ce que j'ai observé sur nous, autour de nous sur Terre, c'est ces écrans qui nous entourent, qui parfois aussi nous enferment un peu, nos écrans de smartphone, de télé-réalité, de réseaux sociaux, qui nous permettent certes d'établir des relations avec plein de gens dans le monde, c'est aussi un territoire de créativité. Mais c'est aussi une prison, quelque part, à mon sens, un jeu de miroir, où on est sollicité en permanence, on se met en scène en permanence, et il y a quelque chose d'un peu claustrophobique, paradoxalement, dans toutes ces images autour de nous. Alors mes personnages pensent échapper à ça en partant le plus loin possible à l'autre bout du système solaire, mais ils embarquent avec eux des caméras, car ce voyage va être transmis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ensuite leur vie sur Mars jusqu'à la fin de leur journée. Donc ils restent filmés. Ils partent avec leur prison, voilà. Alors ça, est-ce que c'est magique, comment briser le miroir, comment passer de l'autre côté du miroir, peut-être, ce que j'essaie de vous montrer aussi dans Phobos, c'est cette tension entre le côté prosaïque de notre société, du monde dans lequel on vit, et cet appel à l'ailleurs, à l'infini, cette soif d'exploration qu'on porte sur nous en tant qu'être humain.
Patrick, est-ce que dans Aelphic, la magie est au cœur ou elle est périphérique?
Non, elle est au cœur même de l'histoire, effectivement. Là, déjà, rétablir le thème, les elfes qui par même sont un des symboles les plus populaires, les plus puissants de magie. Mais dans mon univers, moi, les elfes ont très peu de choses à voir avec ceux popularisés par Tolkien. Et comme je suis moi-même un magicien, j'explique dans mon roman pourquoi Tolkien a défini les elfes comme tout le monde les connaît, grands, blonds, etc. J'ai perdu le fil de la question.
Je suis désolé. Quelle est la magie, comment se révèle la magie dans ton univers?
La D'accord. Eh bien.
Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est périphérique?
Ah oui, c'était ça. Non, elle est centrale, puisque le jeune héros, en fait, est au départ, c'est un jeune humain en vacances avec ses parents du côté de Stonehenge. Ils ont un accident de voiture assez grave. Et puis, il se réveille dans le monde des neuf forêts. Donc, il ne sait pas trop s'il est mort. D'abord, il se dit, ah, ça y est, je suis mort. Ou alors, je suis en train de rêver. Et puis, petit à petit, il va s'apercevoir qu'il se trouve à la fois sur Terre, dans un coma, et ses parents également. Et en même temps, dans ce monde, donc, peuplé de créatures elfiques. Et il va lui falloir... beaucoup de pages passeront avant qu'ils comprennent ce qu'il est en train de se passer, effectivement. Mais oui, la magie est complètement au cœur. Elle est à la fois au cœur et en périphérie de l'ouvrage. Elle est partout.
Anselme, que se passe-t-il de magique pour un marchand de rêve?
Alors, en fait, comme tout jour de magie qui se veut réussir, je voulais absolument faire disparaître les grosses ficelles de l'univers dans l'ouvrage. Donc, je veux avoir une magie qui soit assez plausible. Aussi, pourquoi pas, de suspension d'incrédulité, ce qui fait dans un roman qu'en fait le lecteur met de côté la partie la plus rationnelle de son esprit et commence à croire véritablement à l'histoire, aussi farfelue soit-elle. Et donc du coup j'ai campé l'élément magique dans les rêves, puisque dans les rêves tout est permis, tout le monde rêve, tout le monde peut se projeter dans un personnage de rêveur qui va trouver donc cette magie dès lors que ses paupières se ferment. Ce qui m'a plu également là-dedans, c'était après donc de mettre en parallèle le potentiel absolument absolu des rêves, donc là encore je rebondis, désolé, sur l'infini en fait de l'espace, l'infini de l'imaginaire humain, et on a encore cette prison, notre prison parmi d'autres, qui est en fait notre corps, qui est notre espérance de vie. Je ne vais pas vous démoraliser, donc je vais vite remonter un peu.
Dire qu'on va tous mourir.
Comme toute chose, ça doit avoir lieu, c'est sûr. Il y a différentes façons de le faire, avec plus ou moins d'élégance. Ce que les lecteurs et les personnages tâchent de faire, donc ce que j'aime en fait, c'est mettre en abîme des personnages certes fantastiques, avec le pouvoir de rêveur, donc d'explorer ce monde qu'on appelle Vedder, des personnages qui soient à la fois les plus faibles qu'on puisse trouver en littérature et paradoxalement les plus forts. Je m'explique. Donc avec une magie qui ne peut rien changer au monde réel. Dans le monde réel, la prison est toujours là. Peu importe ce que l'on peut rêver, on peut être une étoile au firmament le temps d'une nuit. Mais dès que l'aube se lève, le soleil est un peu une sorte de geôlier et la prison revient. Et donc cet abîme, pour moi, c'est, entre guillemets, la condition humaine, c'est un peu galvaudé de dire ça, mais c'est malgré tout l'idée. Et je trouvais intéressant d'avoir des personnages dont le véritable défi ne soit pas de changer le monde, genre Neo, Matrix, tuer l'élu, tout va bien, génial, non, rien de tout ça. Des personnages qui sont face à un dilemme beaucoup plus compliqué, se changer eux-mêmes, à travers leurs rêves. Et c'était, pour moi, l'essence de la magie.
C'est joli en tout cas, c'est joli.
Est-ce que c'est les derniers qui ont un petit magique qui est en train de se faire entre
personnes.
Est-ce qu'il y a des écrivains qui pour vous sont de réels magiciens, des auteurs qui vous semblent, dont l'écriture ou même les personnages ou les univers vous semblent, enfin, vous ont inspiré ou vous semblent vraiment empreints d'une magique? À la limite, vous ne comprenez pas, ou en tout cas, qui vous impressionne.
À laquelle on n'a aucune chance d'accéder.
Je ne sais pas. Non, je ne voulais pas dire
merci.
Ça.
Merci. Non, merci.
C'est une perte de l'humilité.
Non, bah, après l'immodestie du départ, maintenant, c'est l'humilité. Ensuite viendra la soumission.
Je n'ose espérer autant. Alors, non, plutôt juste de l'admiration, peut-être, est-ce qu'il y a des
écrivains
magiciens que vous admirez?
On est aux Imaginales, donc le royaume de la fantaisie. On peut remonter aux grands anciens, à Tolkien, je pense qu'il...
C'est une vexe personne.
Exactement, c'est consensuel, chacun s'incline devant Tolkien, de ce côté démiurgique qu'il a d'avoir créé, c'est le premier à l'avoir fait dans cette dimension-là, de créer entièrement un monde, des civilisations, une histoire, des langues, tous les aspects d'une culture inventée à partir d'une usage de son cerveau, ça a quelque chose là pour le coup de proprement magique, d'impressionnant, de bluffant et d'infini. On peut plonger dans l'œuvre de Tolkien toujours plus profondément, on en retire toujours quelque chose. Ça semble sans fin et un effet de mise en abîme comme ça à travers ce qu'il a écrit et ce qu'il n'a pas aussi écrit, hein, les contes et légendes inachevées, c'est un univers qui existe et qui continuera d'exister, on a l'impression toujours. Donc ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Il y a d'autres auteurs, il y en a plein, bien sûr. En jeunesse, moi, il y a Philip Pullman, La Croisée des Mondes, qui a fait la même chose, à mon sens. Il a réussi, à travers son œuvre, à travers ses livres, à donner un sentiment de vertige, cette idée des univers parallèles qui communiquent avec, en même temps, ces niveaux de lecture. Il y a non seulement un millefeuille au niveau des univers parallèles, c'est-à-dire qu'ils s'emboîtent les uns dans les autres, on voyage de l'un à l'autre, et même s'il n'en décrit que quelques-uns, on imagine tout ce qui est derrière. Mais il y a aussi un millefeuille en termes de niveau de lecture. On peut lire La Croisée des Mondes au premier degré, juste l'aventure de Lyra, cette fille qui part à la recherche de ses origines en montant vers le nord. Il y a un sens du storytelling, de raconter des histoires, un sense of wonder, comme disaient les anglo-saxons, qui est merveilleux. Mais on peut aussi lire toute cette série d'un point de vue philosophique, une critique de la religion, une certaine forme d'autorité, la matière noire, la poussière, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, Philip Pullman prévoit une deuxième trilogie, c'est pas le Book of Dust, qui va apparaître à partir de l'année prochaine, dont tous les fans de la première trilogie se frottent les mains.
Daniel, des auteurs
Moi, je citerai comme ça, vraiment, tout de suite, si je dois dire quelqu'un, c'est Franck Herbert avec Dune. Quand j'ai lu Dune, j'ai pris une gigantesque gifle, j'ai trouvé que c'était un univers extraordinaire. Le personnage, tous. Et ce voyage dans l'espace avec ses navigateurs de la guilde qui replient l'espace, on pourra en parler de toute façon aussi à un moment ou à un autre de notre discussion, parce que l'hyperespace, ça a quelque chose de magique aussi. On est parfaitement tous conscients du fait qu'on n'est pas prêt quand même d'aller très très loin dans l'espace avec nos technologies actuelles. Donc il y a un abracadabra magique des auteurs de science-fiction, en particulier pour la space opéra, qui est le fait de replier l'espace. Et bon, ça, on voit ça peut-être justement vraiment à la connaissance du grand public avec Dune de Frank Herbert. Quand je parle de ce genre de choses à des jeunes lecteurs, replier l'espace, bon, je le fais d'une façon très concrète. Je prends une feuille de papier, je leur montre que si on veut aller d'un angle à l'autre, d'une feuille à quatre, on va tracer un trait, puis après je replie les deux coins et je fais toucher les deux angles. Et là, d'un seul coup, ça devient très concret, on replie l'espace et effectivement, on reste...
Ça ne marche pas que sur les enfants, moi c'est la seule façon que j'ai de comprendre cette notion.
Et bien ça, c'est un peu magique quand même. Hein. Il faut reconnaître que là, l'écrivain de Space Opera se sent magicien quand il évoque tout ça. Mais bon, on saute à pieds joints par-dessus la réalité scientifique, mis à part si on a un auteur de hard science et qu'on veut vraiment respecter toutes les données scientifiques du voyage spatial. Mais ça permet, moi, dans les abîmes d'outre mer, c'est ce qui se passe. Hein. Mes personnages, les abîmes, les vaisseaux spatiaux qui sont les abîmes, sont capables de passer d'un bout à l'autre de la galaxie. Ça m'arrange, hein, je reconnais, et j'avais envie d'emmener mon monde assez loin, au bout de la Voie lactée, puis ensuite, dans la suite, je suis passé au nuage de Magellan, et ça se termine carrément dans la galaxie d'Andromède. Je ne voulais pas être obligé de faire un manuel de navigation spatiale, etc. Donc le passage en hyperespace, c'est magique.
L'hyperespace, c'est ça.
Ouais. Est-ce que c'est pas étonnant d'ailleurs ce manque d'admiration, je dirais, bon, comme on est dans un festival plutôt fantasy, mais est-ce que justement les auteurs de hard science, les auteurs de science-fiction, c'est pas des gens qui... est-ce que la science, quand on la comprend pas, c'est pas un peu magique, quoi? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir cette même fascination que pour les lecteurs de fantasy, pour tous les univers où on fait abracadabra? Est-ce que c'est pas un peu étonnant qu'ils aient pas la même fascination pour les mondes de l'ASF? Il y a souvent moi j'essaie d'éviter la dichotomie, mais il y a souvent une séparation qui paraît à certains irréconciliable. Est-ce que vous pourriez écrire plus de science-fiction, par exemple, pour Daniel Orgeux? C'est son cas déjà, mais
juste quand j'ai essayé d'écrire un roman de science fantasy, c'est-à-dire à la fois science-fiction et magie.
Un peu comme Dieu.
Je ne serais pas me comparer à Herbert quand même, mais c'est vrai que dans mon roman cantorial, l'énergie est produite par la voix des chanteurs. Alors déjà ça m'a valu d'être invité par le CEA à Grenoble pour réfléchir. réfléchir avec eux sur les énergies alternatives, parce qu'ils se sont dit, quelqu'un a lu le roman et s'est dit, celle-là, elle doit être assez large pour venir discuter avec nous. Parce qu'imaginez que dans les énergies alternatives, il puisse y avoir la voix de chanteur, ça m'a valu de faire un séjour passionnant avec les
Eurovision, ce producteur d'énergie incroyable.
On en parlait hier, mais je ne sais plus qui en parlait.
C'est Catherine Valente, je vous conseille de surveiller son prochain roman, parce qu'elle elle parle d'un concours de l'Eurovision dans l'espace, où le représentant de la Terre va chanter dans l'espace. Je vais suggérer comme titre, dans l'espace, tout le monde vous entend chanter.
Dans l'espace, tout le monde vous entendra chanter. Voilà.
Elle a l'air de trouver ça sympa.
Et ça m'a bien amusé, mais enfin, j'ai fait ça, ça ne serait pas non plus quelque chose que je renouvellerais, mais ça m'a bien amusé d'imaginer que des gens, des jeunes, se consacrent leur énergie vocale après avoir une transformation de la voix, à chanter les louanges de la déesse, laquelle déesse renvoie de la magie sur le monde, enfin bon.
Ça des karaokés magiques.
C'est
bon.
C'est mon illustrateur Manchu, parce que je parle dans le roman d'un vapeur-avion où dans la soute, il y a 45 gus qui hurlent devant des tubes résonateurs et ça fait bouillir l'eau et grâce à ça, l'avion à vapeur peut décoller. Et Manchu, qui est quelqu'un, lui, comme illustrateur de SF, extrêmement rationnel avec ses vaisseaux qui sont cohérents, si j'ose dire, quand on lui a demandé de faire avec les éditions de la Talente la couverture du roman, il m'a téléphoné, il m'a dit, tu sais, ta technologie champ vapeur ne me facilite pas la tâche. Il a quand même réussi à faire une superbe couverture. Mais c'est vrai que c'est amusant de jouer aussi avec ce genre de paradoxe.
Victor, vous vous sentez entre fantaisie et. Parce qu'entre le titre m'échappe, mais je vais retrouver. Entre animal et phobos, il y a quand même un gros fossé.
Oui, Hannibal, c'est de la fantaisie historique. Foucault, c'est de la science-fiction. C'est donc de l'anticipation. C'est de la science-fiction très proche qui pourrait se passer demain. Ce qui m'intéresse avant de m'inscrire dans un genre, c'est de raconter une histoire qui, à un moment donné, est importante pour moi. Donc, mixer maintenant fantaisie et science-fiction, comme l'a fait Daniel dans un prochain livre, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai traité la fantaisie dans une série, la science-fiction dans l'autre, mais. La littérature offre toutes les possibilités, toutes les libertés. Et pour revenir à ce que tu disais sur la frontière entre la magie et la technologie, le fait que peut-être la technologie ou la science qu'on comprend pas devient magique, je pense que ça, c'est un ressort qui a été pas mal exploité dans pas mal notamment des sociétés post-apocalyptiques qui retournent à un niveau médiéval et qui vont être confrontés à des artefacts technologiques issus de l'ère d'avant et qui, bien sûr, vont paraître magiques. La magie peut-être réside dans notre incompréhension aussi des choses. Moi j'ai l'impression, pour revenir sur la science, avant qu'on parlait tout à l'heure, de tordre l'espace, tordre le temps, mais même les paradoxes de la mécanique quantique, tout ça pour moi ça, c'est proprement magique. Le chat de Schrödinger, ce genre de petites fables, ça dépasse, moi je ne réussis pas en tout cas à le comprendre suffisamment pour le dépasser. Ça reste du stade du mystère, parce que religieux. Et donc magique. Donc, pour moi, il y a comme ça des choses qui sont posées par la science et qui sont magiques, proprement magiques, et qui permettent à l'imagination ensuite de décoller.
On va leur demander vos auteurs magiques, vos inspirations magiques. Ça a répondu de ce côté, la balle est de votre côté.
C'est typiquement la question pour laquelle il est très très désagréable de passer quasiment le dernier, et je ne peux que compatir pour Patrick qui passe juste après, ça va être encore pire. Quel auteur cité quand beaucoup ont déjà été cités
Un auteur mort, continue.
Alors, mort, c'est un peu triste, mais Terry Pratchett, que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en fait, on parlait donc de faire disparaître les ficelles, et Terry Pratchett y arrivait très bien, avec quelques petites scènes très bien croquées, on est très vite emporté dans l'histoire, et... par rapport au fait que la magie, justement, enfin, je vois également un symbole, en fait, on déforme un élément du réel, on y revient de façon allégorique, pour que les gens, justement, prennent du recul, dépassionner un peu le débat, et les faire réfléchir de façon insidieuse, de façon inconsciente, et c'est souvent là que, justement, les gens sortent de leur clivage, on reviendra après sur le clivage, justement, et cette fantaisie, j'aurais beaucoup à dire là-dessus, hein. Mais je vais garder ça pour après, pour le dessert.
On a qu'une heure.
Mais vraiment, je trouve ça donc très bien fait, le fait donc de prendre cet univers de fantaisie humoristique et de rien des éléments contemporains, comme par exemple Timbré, dans lequel on décrit un peu les biais justement de la communication. On est toujours dans la surréaction, entre guillemets, avec les sollicitations sur Internet, sur les réseaux sociaux, et j'en passe. Et on ne prenait plus le temps de cette bonne vieille communication écrite, dans laquelle on a le temps de mûrir sa réflexion, de digérer ce que les gens vous proposent, et de leur apporter une réponse qui ne soit pas une réaction, on a vu récemment ce que donne une réaction à l'emporte-pièce, mais qui soit une véritable réflexion dans laquelle on construit un dialogue avec l'autre qui n'est pas un monologue, et ça, donc, Pratchett le faisait très bien dans son ouvrage. Donc, prendre le temps. Et ça, c'est très appréciable. Après, je vais quand même citer un auteur vivant, il y a aussi de très bons auteurs vivants, Alain Damasio, qui m'avait bluffé avec L'heure du contrevent, j'avais découvert justement aux Imaginales, j'ai encore beaucoup d'auteurs ici, et je trouve que c'était incroyable. Personne m'aurait pitché son ouvrage en disant « Il y a 21 personnages qu'on suit par petite scène, accroche-toi pour te repérer dans l'histoire, j'aurais pas pris aucun. » En l'écoutant parler, en écoutant des fragments, on était complètement happé, parce que cet homme avait réussi, et là pour le coup, je me sens très humble et très écrasé par son génie, à créer presque son propre langage, sa propre rythmique, à tel point, imagine un peu, que l'ouvrage commençait par des signes de ponctuation, pour vous symboliser en fait le bruit du vent.
Ce qui lui vaut récemment une petite difficulté avec les éditions numériques Kobo, qui n'ont pas compris que les premières pages étaient des mots écourtés, des signes de ponctuation, et qui ont tout corrigé et rempli les blancs.
Maintenant, le vent parle.
Patrick, des auteurs dont la magie t'inspire.
Donc, en fait, comme tu disais, c'est le dernier. Bon, après, Victor tout à l'heure parlait de Tolkien. Il y a également Robert Howard, le créateur de Conan le Barbare. Entre autres, il n'a pas fait que ça, mais c'est pour ça qu'il a été le plus connu, qui n'avait peut-être pas réellement une grande flamboyance d'écriture, mais qui a créé, comme Tolkien, un univers totalement cohérent. Chez Howard, il n'y a pas une incarnation spécifique du mal, mais plutôt diverses incarnations. Puis le héros, c'est plutôt...
La créature du mal avec un accent sexiste.
Voilà, c'est ça, oui, effectivement. Et bon, en gros, c'est un voyou qui se promène de royaume en royaume. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est la brillance avec laquelle il a su donner une cohérence à un monde politique. Enfin, il y a des conflits politiques entre les divers monarques, exactement comme notre monde à nous. Donc, maintenant, il est peut-être un peu en retrait sur le plan médiatique, mais je trouve qu'il a été très très important. Sinon, Lovecraft aussi, évidemment, bon, pareil, je ne prends pas trop de risques en citant Lovecraft. Et puis, hors fantasy, moi, Victor Hugo, qui reste pour moi le magicien par excellence, quoi. Puis voilà, les vivants, je ne les citerai pas parce que je les jalouse tous, donc qu'ils craignent.
On espère toujours qu'il n'a pas de vrai pouvoir magique dans la vie. Puisqu'il a déjà réussi à vous convaincre à venir acheter son livre, maintenant il souhaite la mort des autres auteurs. Oups, mais Dieu, ça confond.
Il y a une très bonne citation là-dessus, on dit également que les auteurs ne lisent pas les autres auteurs, ils les surveillent.
Exactement.
Alors aujourd'hui, j'ai appris qu'ils étaient tous sadiques. Hier, qu'ils aimaient faire souffrir leurs personnages. Enfin, bon. Et là, maintenant, qu'ils surveillent les autres. Okay. Alors, est-ce que revenons au processus créatif. Est-ce que justement, il vous arrive d'être en panne de sort? Est-ce qu'il y a des moments où le expecto patronum, ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a des pannes, des moments de blocage? Est-ce que le processus créatif, c'est aussi bête qu'un sort qui rate, quoi, par moment? Je vais regarder ce que tu disais tout à l'heure, souvent.
Alors, je vais rebondir, voilà. Donc, on surveille les uns les autres. On souhaite intérieurement la mort des concurrents, confrères, enfin, confrères, c'est concurrents, mais de façon politiquement correcte. Et en plus, on est masochiste. Voilà, comme ça, je complète le tableau pour de bon. Donc, c'était Copies Hébraïques qui disait si on écrivait à l'envie, on n'écrirait jamais rien. Alors, attention, là encore, je ne vais pas être dogmatique, je vous rassure. Je suis masochiste, mais en privé. Par contre, effectivement,
trop d'informations.
Tout à l'heure, nous parlons de soumission. J'ajouterai le mot abject. Abject soumission, qui est une technique très connue de certains amateurs de nuit parisienne. Est-ce que vous connaissez la Nuit élastique? C'est un festival très particulier. Bon, j'arrête.
Faites sortir les enfants de la salle tout de suite. Sort n'existe pas, en fait, il faut juste se faire violence. Par contre, c'est parfois effectivement un peu plus dur. Donc moi, j'aime bien le bac à sable. On vit une époque merveilleuse, on a le traitement de texte. C'est juste tellement génial, on peut écrire n'importe quoi, même si c'est une grosse bouse. Au moins, en fait, on évite de s'encombrer l'esprit avec quelque chose de mauvais pour enfin laisser les bonnes idées enfin affleurer. Et il faut se donner le droit à l'erreur. Et ça, c'est parfois un gros défaut. Alors, il faut aussi enseigner à protéger tous les travers. Mais il faut se donner le droit à l'erreur parce que c'est dans l'erreur qu'on apprend. On n'apprend pas de ses succès, parfois on a des succès, on ne sait même pas pourquoi. C'est lorsqu'on fait des erreurs qu'on apprend, et donc il n'y aura jamais de panne. Si vous dites peu importe ce qui sort, au moins ça sort. Mais je ne me bloque pas. C'est au contraire de me crisper, comme dans n'importe quel exercice, qu'il soit physique ou intellectuel. Si vous crispez, c'est là que la panne va survenir. Donc donnez-vous le droit d'expérimenter. C'est là qu'on fait de jolies découvertes.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, la fameuse théorie de la page blanche de la panne de sort, je l'éprouve pas non plus. Alors c'est clair qu'il y a des jours où on est moins performant parce que la magie est un peu moins, elle est un peu prodiguée, un peu moins présente. Et c'est exactement ça. Mais il faut pas bloquer, on continue. Et puis effectivement, on revient sur l'ouvrage un peu plus tard. Et autre jour où on est transporté, et c'est là que ça peut s'avérer réellement magique. On a tous, en gros, notre quota d'écriture de pages quotidienne, quoi. C'est chacun le sien. Mais parfois, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, hop, on va exploser ce quota et on va, sur une même durée de journée de travail, écrire davantage, 2 pages de plus, 3 peut-être. Et voilà, bon, ça ne s'explique pas. C'est
comme ça. Alors, je vais continuer à gratter dans la cuisine, mais en quoi, puisque ça vient de l'évoquer, en quoi le traitement de texte et je dirais, l'écriture numérique ou l'écriture avec un clavier, ça permet mieux ça que quand on écrit à la main? Est-ce que
ça va beaucoup plus vite.
Oui.
De corriger. Tu peux te permettre.
Et la production, elle est, si on est productif, il y a une différence réelle ou, voilà, moi, je gratte les détails pour que les lecteurs puissent en profiter.
Alors, peut-être trop de détails. Vraiment, si ça intéresse, vous manifesterez pour aller plus dans le détail. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que le traitement de texte, le premier, en fait, était purement intellectuel. Je vais revenir sur des grands récits, comme par exemple l'Iliade et l'Odyssée, etc. Les gens disent, voilà, c'est dimanche à l'heure, il n'y a pas de traitement de texte. En plus, les conditions de travail à l'époque pour un auteur n'étaient pas évidentes. Mais on est sur une littérature qui, au départ, était orale. Et ça change tout. Parce qu'en fait, quand vous récitez plusieurs fois une histoire orale, vous la réécrivez à chaque fois. Ce n'est jamais deux fois la même. Chaque fois, en fait, elle est meilleure. Et sans le savoir, vous êtes en train de faire de la réécriture. Et votre traitement de texte est intérieur. Et même les grands auteurs, avant le traitement de texte, ont connu quelques-uns avant le traitement de texte. La bonne littérature n'a pas attendu qu'apparaisse le traitement de texte, heureusement. Ces auteurs, en fait, revenaient souvent sur leur texte, les couvraient de ratures, et ils réfléchissaient constamment. Il y avait aussi donc un compositeur de musique dont on m'échappe, mais c'est pas vraiment l'objet, qui disait, c'est en fait une tâche qui est constamment en toile de fond. Et sans qu'on se rende compte, quand on se met son histoire en tête, et qu'on y revient par petits bouts, celle-ci est constamment en train d'être améliorée en toile de fond. Le subconscient y travaille, et c'est une chose merveilleuse.
Alors, est-ce que de ce côté-là aussi, vous avez parfois des pannes de sort?
Pour revenir sur ce que disait Patrick, je pense que la page blanche, en fait, c'est pas le fait de ne pas avoir d'inspiration, c'est plutôt la peur d'écrire quelque chose de mauvais. Ce que vous disiez tous les deux, et c'est ça qui paralyse. Et le seul remède à ça, c'est le seul remède à l'inaction, c'est l'action. C'est le fait de remplir, de noircir la page, sachant une fois encore qu'écrire, c'est d'abord réécrire, c'est revenir ensuite, c'est retravailler. Donc le meilleur conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui a une réticence ou qui n'ose pas se lancer, c'est d'y aller. De regarder ce qui se passe par la fenêtre, et de décrire le chien qui passe dans la rue, ensuite de laisser les idées s'enchaîner et revenir par la suite. Moi, j'ai l'impression que ce qui paye, pour ce que dit aussi Poppy Zedbride apparemment, c'est la régularité. C'est qu'on ne peut pas se permettre d'attendre l'inspiration, la muse, qu'elle nous souffle à l'oreille. Alors peut-être pour certaines formes du thème, comme la poésie, qui sont plus dans la fulgurance d'un moment, d'une impression, mais pour le roman, c'est la discipline, c'est la régularité. C'est comme un marathonien qui veut faire le marathon. S'il veut courir ses 40 km, il faut qu'il s'entraîne tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Ça paye au final. Et on rejoint une fois encore l'aspect artisanal du travail du romancier dont on parlait tout à l'heure, de 100 fois, 1000 fois remettez votre ouvrage sur le métier pour réussir à aboutir au final.
C'est quelqu'un qui dit si vous n'avez pas le temps de lire, vous n'avez pas le temps d'écrire. Parce que lui, il parle
Déjà, il faut effectivement, quand on dit ça, c'est déjà se relire soi-même. Si on ne peut pas se contenter du premier jet, ça n'existe pas quand on écrit un roman. Et puis après, on va lire aussi les autres, surveiller les autres. Voilà.
Daniel, des moments de panne.
Oui, des moments de panne, mais dans les moments de panne.
C'est moins difficile de dire ça directement comme ça, une panne. C'est moi.
J'essaie, à ce moment-là, je passe à pieds joints, si j'ose dire, sur la difficulté, et j'essaie d'écrire quelque chose qui se déroule après. Puisque, comme je disais, je suis une structurante et j'ai déjà mon plan de roman, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écrire la fin d'un livre, alors parce que, justement, j'étais coincée quelque part, et je me disais, bon, allez, rassure-toi, ma grande, tu sais comment tu veux finir, alors fais-le. Je suis encore de ces auteurs qui aiment écrire le mot « fin ». À la fin de mon manuscrit, parce que je suis contente, j'ai réussi à aller au bout. Mais quelquefois, il y a un grand trou blanc avant, donc je reviens en arrière et je comble l'espace vide, si j'ose dire. Mais quand des jeunes auteurs ou quand des jeunes en intervention, quand je les rencontre, me disent quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui débute, je dis, écoutez, essayez d'aller jusqu'au bout, déjà. Hein. Allez jusqu'à la fin. Ne vous attardez pas trop à vous dire il faut que je corrige ci, ça. Vous le reverrez quand vous lirez l'ensemble. Vous sentirez vous-même où sont les points faibles, où sont les points forts. Vous ferez votre tri naturellement dans votre texte. Mais c'est une telle satisfaction d'arriver au bout, au lieu de patiner et de recommencer perpétuellement plusieurs textes, etc. On l'a tous fait, ça. On a tous eu envie de s'arrêter, de repartir sur une autre histoire. Mais moi, je me corrige énormément aussi. Je reviens beaucoup en arrière. Moi, je travaille, puisqu'on parlait de traitement de texte, toujours avec tout mon roman. C'est-à-dire que je ne scinde jamais les chapitres en fichiers différents. Je me lève le matin, j'allume mon ordinateur, j'ouvre le fichier du roman en cours et je le nomme avec la date du jour. Et le soir, je sauvegarde énormément. Hein, j'ai toujours peur de perdre du matériel déjà écrit. Et le soir, je ferme mon document et le lendemain, je reprends. Alors, ce qui fait que j'ai des fichiers, il y a des fois 6, 8, 10 mois de travail, j'ai des fichiers très conséquents, mais je garde tout. Je trie à la fin. Je ne garde que les périodes où je me rappelle que j'ai beaucoup corrigé ou au contraire, les périodes béni où tout allait bien, je garde les traces de ces épisodes-là, mais je navigue sans cesse dans tout mon roman. C'est-à-dire que s'il y a un petit fait à tel endroit qui d'un seul coup me fait prendre conscience qu'il faut que je remonte au début du roman pour affiner la chose, je garde tout mon petit bébé avec moi en permanence.
Je suis comme toi, Daniel, je travaille aussi sur le fichier complet et c'est là que la bureautique, le traitement de texte apporte un énorme progrès parce que ça permet, on fait une recherche de mots, on peut mettre des annotations, des commentaires, donc ça donne une fluidité dans le travail et dans la vision d'ensemble de l'œuvre.
Et un gain de temps malgré tout aussi. Quoi, tu vois.
Vous êtes des auteurs qui ne pourriez pas retourner dans le passé. Quoi. Vous pourriez pas, le voyage dans le temps, c'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas aller écrire autour de Victor Hugo.
J'aimerais répondre oui, mais... au fond, voilà.
Okay.
Oui, c'est ça, on est quand même astreint en général à des délais de production qui sont...
Est-ce que ça casse pas un peu la magie?
Non, en aucune façon, je crois. Okay. Enfin, à mon avis, non. Mais simplement, c'est speed, quoi. C'est la magie speed.
J'ai beaucoup travaillé sur Jules Verne, puisque j'ai fait une anthologie sur Jules Verne pour les éditions Flammarion Jeunesse. Quelque part, on a de la chance qu'il ait vécu à l'époque où il n'y avait pas Internet, parce que c'est pas 83 voyages extraordinaires qu'on aurait, c'est 450, hein, parce que c'était un gros travail, il allait en bibliothèque tous les après-midi, il travaillait énormément, il prenait une foule de notes, etc. Quand je vois la facilité que nous avons maintenant à aller chercher un petit renseignement, en particulier moi pour le travail sur le Moyen-Âge, par exemple, j'arrêtais pas d'utiliser le net pour aller chercher des renseignements.
Là aussi, tu as un gain de temps énorme, quoi.
Voilà.
Par rapport aux multiples allers-retours qu'on devrait faire pour aller en bibliothèque s'il fallait se documenter.
Alors ça, c'est magique.
Ah oui, oui.
Pour moi, dans l'écriture, ça, c'est quelque chose de magique.
C'est pas vous, les magiciens, c'est Internet.
Oui.
Ça y est, on est démasqués. Nous sommes des charlatans.
Non, le mot de la fin, c'est que j'espère que vous avez bien pris des notes pour repérer tout leur sort et toute leur façon d'être des magiciens et que vous aurez envie d'aller vous faire signer leur livre à l'issue de cette conférence dans la bulle du livre. Voilà, merci à vous. On arrive au terme de cette conférence. J'espère qu'on vous a donné envie de magie et on vous a fait comprendre qu'on était un peu entouré de magiciens avec beaucoup de chance aux imaginaires pendant ces 4 jours. Merci à vous.
Merci à vous. Merci à tous. Merci à toutes et à tous.